Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, merci d'être avec nous entre midi et 15h sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. Autour de moi, aujourd'hui, en ce vendredi, veille de week-end, il est là, c'est Alfred Orange. Salut Alfred.
Salut Rémi, salut à tous.
Alfred Orange, journaliste RMC qui a épluché toutes les infos, qui a tout décortiqué pour bien tout nous expliquer, pour qu'ensuite on puisse tous débattre ensemble. Au 32-16, il y a également, à côté d'Alfred, qui a pris place, Thierry Moreau. Salut Thierry.
Bonjour Rémi, bonjour à toutes et à tous.
Journaliste média, Yaël Mellul, ancienne avocate, fondatrice de Femmes et Libres. Bonjour Yaël.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Et puis Juliette Briens, journaliste à l'Incorrect.
Salut
Rémi. Juliette. Dans un instant, vous l'avez certainement vu passer cette semaine, une série noire, une série dramatique d'accidents impliquant notamment des enfants sur nos routes, avec des auteurs impliqués, auteurs présumés, des automobilistes qui étaient parfois en défaut de permis, défaut d'assurance, ou stupéfiants, sous stupéfiants, parfois même les deux. Et on vous pose la question, y a-t-il trop de laxisme sur nos routes? Vous nous appelez au 32-16. À midi 30, 62% des jeunes favorables au retour du service militaire obligatoire. Alors moi, j'aurais pas cru il y a encore 5 ans ou 10 ans. Mais là, apparemment, le vent tourne. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes pour, vous êtes contre? À 13h, la surpopulation carcérale. Vous le savez, nos prisons sont pleines, archi-pleines, trop pleines. Et les représentants des avocats d'Île-de-France, eh bien, réclament, pour y remédier, en tout cas, y remédier en partie, de libérer de manière anticipée les détenus en fin de peine. À 13h30, le meilleur du jour sur RMC, le zapping. À 14h, c'est un menu anti-inflation à 5 euros proposé en ce moment dans les enseignes de restauration rapide chez McDo, Quick ou Burger King. C'est une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce que c'est une prime à la malbouffe, ces menus anti-inflation à 5 euros? Et puis à 14h40, les immanquables, les infos qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui. Et puis Alfred, attention, on joue au jeu. C'est toi qui m'as donné le mot ce matin.
Oui, parce que mercredi prochain, nous serons à J-100 des Jeux Olympiques de Paris. Et sur RMC, nous vous offrons 100 places dès aujourd'hui dans chaque émission de RMC. Vous allez pouvoir remporter vos deux places pour assister aux épreuves des Jeux, cérémonie d'ouverture, finale du 100 mètres, judo, tennis de table, natation et j'en passe. Envoyez Paris 2024 au 7-32-16. Paris 2024 au 7-32-16.
Je te vois ébahi.
C'est un beau cadeau. Hein.
Mais oui, mais c'est ça, RMC.
Ça coûte tellement cher, mon Dieu.
C'est ça, RMC.
RMC, Estelle Midi.
La série du jour, une série noire survenue sur nos routes cette semaine avec une multiplication d'accidents dramatiques. Alfred, parmi les automobilistes impliqués, je le disais, certains roulaient sans permis, d'autres étaient sous stupéfiants, parfois même les deux.
Oui, dernier exemple, hier à Évry, où un ambulancier sans permis et sous stupéfiants a été arrêté dans son véhicule devant l'hôpital. Parfois, Rémi, les bilans sont plus dramatiques, comme mardi à Rennes, où un conducteur sans permis a renversé mortellement un enfant de 2 ans sur un parking. Lundi à Limoges, c'était un conducteur positif au cannabis qui a heurté mortellement un cycliste. Des drames à répétition qui traduisent aussi une autre réalité. Les accidents impliquant des conducteurs non assurés ont augmenté de 3,5% entre 2021 et 2022, d'après le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Les fraudes au permis de conduire sont également en hausse, d'après un syndicat d'inspecteurs au permis de conduire. 40% des attestations du code de la route délivrées seraient en fait frauduleuses. La seule bonne nouvelle, c'est que le nombre de morts sur les routes françaises est en baisse. 3170 personnes ont perdu la vie en 2023, c'est 3% de moins qu'en 2022.
Et tu as raison de le dire, c'est en baisse malgré tout. Combien tu as dit de morts sur les routes l'année dernière?
3170 morts exactement.
On est autour des 3000 et le plafond, on a atteint un plafond, ça ne baisse plus.
Ça fait 10 ans
depuis des années. Julia, tiens, je me tourne vers toi. Julia,
oui, non, ça fait 10 ans que...
Je te pose la question.
Oui.
Défaut de permis d'assurance, conduite sous stupéfiants, défaut de permis, etc. Y a-t-il trop de laxisme sur nos routes? Vous nous appelez au 32-16. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, bien sûr. Alors, ça fait 10 ans que la mortalité sur la route ne baisse pas, c'est assez dramatique, ne baisse plus. Il faut savoir aussi que les contrôles ont beaucoup baissé depuis 10 ans. On a eu 7 millions de contrôles routiers.
Physiques
en 2021.
C'est le gendarme, le policier qui a arrêté la voiture sur le bord de la route.
40% de moins qu'il y a 10 ans. Donc allez savoir, c'est sûrement et ça peut être lié. Évidemment, la consommation d'alcool et de stupéfiants, c'est la première cause d'accidents mortels sur la route. 23% des cas. Ensuite, ça vient derrière, c'est la fatigue et la somnolence. Et ensuite, derrière, le quatrième facteur, on a la vitesse. Mais il y a une explosion aussi de la consommation de drogue dans ce pays. Et c'est forcément lié, ça vient forcément avec. Mais oui, il y a un laxisme terrible et on n'arrive pas à faire baisser les chiffres.
Mais on fait quoi alors? On remet du bleu, comme on dit, sur la route, sur le bord des routes, on met du gendarme, du policier et on multiplie les contrôles, on met le paquet.
Là, on est en train de faire. C'est comme pour toute la société, tout va devenir comme ça maintenant.
On est en train de faire là des opérations XXL, place nette, face à la drogue. Est-ce qu'il faut faire la même chose sur la route?
Comme l'un et l'autre est un peu lié, si vous voulez, de toute façon, oui, il va falloir plus de police, plus de contrôle de partout, dans toutes les sphères, toutes les strates de la société. C'est. Il n'y a rien de surprenant, en fait.
Yaël Mellul.
Alors même s'il y a moins de morts sur la route, il y a en revanche plus d'adolescents qui meurent sur les routes. Il y a une augmentation depuis 2019. Et sur les derniers faits divers qui sont à vrai dire plus des faits de société qui viennent d'être évoqués. Moi, celui qui m'a particulièrement bouleversé, c'est cet enfant de 2 ans qui se promenait avec sa maman dans un parking et qui a été percuté par une voiture. Donc s'il y a un laxisme sur les routes, il y a aussi un laxisme ailleurs parce que le conducteur était un ressortissant géorgien en situation irrégulière et sans permis. Donc en réalité, l'illégalité appelle l'illégalité. Quand on est en situation irrégulière, donc quand on se met hors de la société, ça appelle forcément.
Ouais, mais forcément. Regarde, l'exemple que donnait tout à l'heure Alfred, cet ambulancier qui est contrôlé, interpellé devant l'hôpital en ambulance. Un ambulancier en service, il est sous stupéfiant. Ouais. Il est apparemment intégré, il a un travail.
Absolument.
Il travaille.
Absolument. Attention, je ne dis pas que. Là, on est dans un cas particulier, mais un cas qui aurait été grandement évitable. Donc je dis simplement que s'il y a laxisme sur le contrôle des routes, il y a laxisme dans la totalité du système aussi. Évidemment qu'il faudrait davantage de présence de bleu.
Mais il en faudrait partout, quoi.
Mais le problème, c'est qu'on...
On en veut devant les écoles, on en veut dans les routes, on en veut devant les cinémas, dans les synagogues.
On va manquer un personnel, en fait. Mettre le paquet. C'est une décision politique, c'est un choix politique.
Oui, mais
on n'a plus d'argent, le déficit public, etc. Ouais, on fait des arbitrages. Et on en a fait, et j'entends qu'on les fasse, vu le contexte géopolitique actuel, on a renforcé le budget des armées, on a mis le paquet pour les armées. Là aussi, peut-être que ce sont des choix politiques à faire. Thierry.
D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que tous ces morts sur la route, ce sont des morts évitables.
Oui.
Ça fait partie, parce qu'il y aura toujours une petite proportion d'accidents inéluctables, une fatalité,
mais
la grande majorité, c'est des morts évitables. La deuxième chose, c'est qu'il y a une perception chez le citoyen de se dire « j'ai jamais d'accident, je roule très bien, donc pourquoi je paierais une assurance ? Une assurance, ça sert à rien. » Sauf que
quand tu réfléchis comme ça, déjà, c'est qu'il y a un biais...
Absolument. De cette perception d'une petite infraction peut découler des choses gravissimes. C'est ça le problème. Et que je pense que le respect de la loi, elle commence par ces petites infractions. Parce que si on commence à considérer qu'il y a une tolérance sur les petites infractions, on permet aux citoyens de pousser le bouchon un peu plus loin.
Absolument.
S'il n'est pas condamné, attrapé ou réprimandé pour une petite infraction, il pousse toujours le bouchon un tout petit peu plus loin. Et puis du coup, ça permet d'arriver à des infractions beaucoup plus graves. Donc moi, je suis pour une tolérance zéro en ce qui concerne... Je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai accompagné un jour quelqu'un de ma famille qui passait en comparution immédiate pour avoir marché avec ses baskets. Il faisait le con sur des voitures. Ok, comparution immédiate. Il s'est pris 800 euros d'amende. Ok, 800 euros. Dans la même comparution immédiate, il y avait des gens qui roulaient sans permis, sans assurance, compris 200 euros d'amende, voire des sursis. Je trouve ça inadmissible. Je pense que ça, je n'ai pas compris. C'était il y a quelques années. Je n'ai toujours pas compris cette différence de traitement. Je pense qu'il faut être absolument impitoyable parce que, alors vous allez me dire, ces gens qui n'ont pas l'assurance, ils ne peuvent pas payer l'assurance, ils ne pourront pas payer l'amende. je sais pas, on trouve un problème, des travaux d'intérêt général, quoi que ce soit. Mais je pense qu'il faut absolument réprimander ces petits délits, parce que petits délits entraînent des grands délits, comme tu disais.
Oui, illégalité
entraîne l'illégalité. Hein. Donc, et puis il y a une solution, pas forcément besoin de mettre du bleu partout. Il y a des radars qui sont de plus en plus performants et qui arrivent à lire.
Ouais, mais sur le problème de,
quand t'as pris le cannabis, le radar, mais
le problème
pas.
Et
je suis d'accord, je mais suis si pas, déjà t'enlèves je ne suis... tous les gens qui téléphonent au volant grâce au radar, tous les gens qui n'ont pas d'assurance mais parce qu'ils lisent la plaque et on sait tout de suite si le véhicule est assuré.
Ça ne remplacera jamais. Alors ça,
je suis d'accord.
Ça ne remplacera jamais. Mais il en faut, moi je suis pas contre. Mais ça ne remplacera jamais la présence humaine.
Est-ce que j'ai aujourd'hui remplacer?
Je ne suis pas spécialiste de la question. Et d'ailleurs, si vous êtes gendarme ou policier, appelez-nous au 3216, expliquez-nous. Je ne suis pas spécialiste du domaine, mais pour en avoir déjà débattu ici, avoir déjà discuté avec des membres des forces de l'ordre ou avec des avocats d'ailleurs de victimes de la route, aujourd'hui, on a fait une politique tout radar. On a tout délégué au radar pour mettre les policiers et les gendarmes sur autre chose, notamment, et les pauvres, ils sont les premiers à s'en plaindre, sur de l'administratif ou du social, et c'est pas leur cœur de métier. Aujourd'hui, on a fait du tout radar. Il faudrait peut-être rééquilibrer les choses. Donc, j'entends ce que tu dis. Il y a des radars qui peuvent soulager les forces de l'ordre sur certains points. Mais il faut aussi, je pense, remettre du bleu sur la route.
Tu me fais dire ce que je ne dis pas. C'est-à-dire, évidemment, il faut pas enlever le bleu sur la route. Il faut qu'il y en ait, et il faut qu'il y en ait davantage. Ça, on est d'accord. Mais quand on a un outil qui est de plus en plus sophistiqué, qui permet, avec la lecture de plaques, de savoir si le véhicule est assuré, si la personne téléphone au volant, rien que le téléphone au volant, quand vous regardez les émissions de télé où il y a, où il y a les contrôles, etc., le nombre de gens qui sont contrôlés avec le téléphone au volant, ça enlèverait un nombre
de... Il y a un autre élément dont il faut tenir compte, Thierry, c'est la peur. La peur du gendarme.
C'est vrai.
Si tu mets du gendarme sur le bord de la route, même pour contrôler l'assurance, même pour contrôler le permis de conduire,
souvent en général,
même pour dire tout va bien
d'ailleurs.
Votre véhicule, je reviens, je fais le tour, ok, il est impeccable votre véhicule.
Souvent il y a plus d'une infraction.
Psychologiquement, tu sais que c'est important.
Je suis d'accord.
C'est important parce que justement ceux qui seraient tentés parfois de commettre une petite infraction.
Je suis d'accord.
S'il voit du gendarme, il va dire bon, oh là, ça fait longtemps que j'ai pas changé mes pneus, bon, je vais attendre. Si je vois régulièrement du bleu sur la route, du gendarme ou du policier, je vais me dire bon, allez, je vais les faire mes pneus.
Je suis complètement d'accord, mais ça reste quand même un outil qui pourrait être utilisé avec les nouveaux radars très, très performants.
Merci Thierry. Allez, dans un instant, on aura avec nous un avocat, justement, je le disais tout à l'heure, Maître Antoine Réglé, avocat auteur de Drame de la route, combat contre l'injustice. Il sera avec nous dans un instant, mais avant, on va évidemment au 32-16, on va rejoindre Jérôme. Bonjour Jérôme.
Oui, allô, bonjour.
Oui, bonjour Jérôme, merci bonjour. De nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC Story. Vous nous appelez d'où Jérôme?
Je suis de Bordeaux.
De Bordeaux, et je vois que vous êtes chauffeur routier, c'est ça?
Oui, tout à fait, oui.
Donc un professionnel de la route, vous passez votre journée sur les routes?
Alors moi, comme je disais à Thomas, je passe mes journées sur les routes. Je travaille depuis plus de 15 ans sur un gros axe qui est l'axe Espagne-Poitiers avec un National 10. Donc voilà. Et depuis que je suis sur cet axe-là, j'ai été contrôlé une fois. C'est tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure. On ne voit plus de bleu sur la route.
Ça fait vous avez été contrôlé une fois en combien de temps?
En 10 ans. Je fais 500 km par jour avec mon camion. J'ai été contrôlé une fois. Alors par contre, je vais vous dire ce que je vois. Hein. Les radars. Alors je vais pas être dupe. Hein. J'ai Wise comme tout le monde. Hein. Et Coyote. Hein. On sait là où c'est. Mmh. Hein, on est bien d'accord. Mmh. Par contre, on ne voit plus de bleu. C'est fini. Ouais. Donc, et je peux vous dire que...
Vous dites que c'est fini parce qu'il y a encore quelques années, quand vous avez commencé votre carrière, vous en voyiez beaucoup plus régulièrement?
Alors, moi, je vais revenir. J'ai 57 ans.
Ouais.
Quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans le monde de la nuit. J'étais disquaire. Quand je rentrais de boîte là, en débauchant le soir, tous les week-ends, je voyais des contrôles. Moi, j'ai des enfants, ils ont 20-25 ans. Ils ne voient plus personne. Ouais. Alors, c'est bien beau de dire que les radars, ils peuvent être sophistiqués. Déjà, il y a une chose... Moi, à mes enfants, quand je leur dis que je partais à un endroit, que j'étais perdu, quand il y avait de la gendarmerie ou de la police à côté, j'allais leur demander la route. Et tout le monde, les gosses, maintenant, ils sont stupéfiés quand vous leur dites ça. Mais forcément, avant, la gendarmerie dans les campagnes faisait partie du paysage. Ils étaient sur les bords de route. Vous allez leur demander quelque chose. Ils faisaient de la prévention. Ils vous disaient, tu vois, là, c'est pas bien ce que tu fais. Quand ils nous arrêtaient, on s'en souvenait. Moi, je me suis fait arrêter. Je vais vous prendre un exemple. Je me suis fait arrêter quelques fois, pas flasher, pour des excès de 10 km/h. C'est pas la mort. C'est pas vilain. Je reçois le PV, trois mois après, je sais même plus là où je me suis fait arrêter. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit répétitif? Oui, mais que ça aille plus vite ou pas, c'est sur le fait. Sur le fait, on vous arrête, on vous dit voilà, là ça va pas. Donc être laxiste, comme je dis, les gens, on les punit une fois qu'il y a eu l'accident.
Quand on est en infraction et qu'on se fait contrôler par des gendarmes ou des policiers, je peux vous dire que ça marque aussi quand on est de bonne foi. Ça fait un coup.
Et puis là où tu as raison, c'est que les radars de vitesse, c'est pas forcément la solution. Les radars de contrôle de plaque pour savoir si vous êtes assuré, ça c'est utile.
Oui, mais mais vraiment, Thierry, le problème, c'est les jeunes qui sortent de boîte et qui sont bourrés, qui ont plus peur de croiser les flics sur la route. Je veux dire, c'est ça le fond du problème, c'est ça la première cause de mortalité. Sur les routes,
Mais il y en a beaucoup moins, Thierry.
Mais ils ont plus peur de les croiser.
Moi, je me fais contrôler à peu près une fois par an. Donc, les gens qui se font contrôler tous les 10 ans, ils ont de la chance.
J'allais dire, entre guillemets, t'as de la chance. Parce que moi, franchement.
En sortie de boîte,
ça m'est arrivé il y a un an.
Je ne fais peut-être pas assez en boîte.
Non, mais il n'y en a plus assez. Il n'y en a plus assez, vraiment.
Ou alors, t'as une tête qui revient.
Et les jeunes qui se pensent invincibles, c'est la seule chose qui leur fait peur, c'est de perdre des points sur leur permis ou de finir en commissariat, pas de tuer, pas de perdre la vie.
Merci à Jérôme d'avoir été avec nous au 32-16. Jérôme qui nous appelait depuis Bordeaux. Maître Antoine Réglé, je le disais, est avec nous. Bonjour maître.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, avocat, auteur de Drame de la route, combat contre l'injustice. Maître, y a-t-il trop de laxisme aujourd'hui sur la route?
C'est large comme question. Je pense qu'il faut essayer de différencier les choses pour regarder la réalité avec objectivité. Pour ceux qui conduisent sous stup ou sous alcool, par exemple, pour la première fois, je dirais pas que la justice est laxiste en ce que ces gens-là prennent souvent 6 mois de suspension de leur permis de conduire, ils perdent aussi 6 points, il y a une amende, et je suis pas certain qu'on puisse dire que perdre son permis pendant 6 mois pour avoir conduit après avoir consommé un joint ou avoir conduit avec un taux d'alcool un peu trop important, ce soit laxiste. Première situation. La deuxième situation, c'est les cas des accidents qui sont pas causés par l'alcool ou par les stupéfiants. Moi, je peux pas entendre, même si, et je les assiste, les victimes, mais elles ne peuvent pas comprendre, et je ne peux pas entendre qu'on doive envoyer quelqu'un en prison parce qu'il aurait été inattentif à un moment, parce que ça, les drames du quotidien, ça nous arrive à tous. Et souvenez-vous, vous la connaissez mieux que moi, Estelle, le nombre de fois où elle dit « Mais les piétons, les cyclistes, les trottinettes, un jour, je vais en emplafonner un. » Bon, on n'a pas envie qu'elle aille en tôle. Bon, en revanche, ceux qui ont des accidents, qui causent des accidents alors qu'ils étaient bourrés ou sous stupéfiants, là, c'est vrai qu'ils ne vont pas souvent en prison. Moi, j'exprime aucun souhait. Je dis simplement que les victimes ne comprennent pas comment ces gens-là ne sont pas enfermés quand elles sont enfermées dans une souffrance.
Parce qu'il y a quelque temps, il y a eu le débat justement sur la création de l'intitulé, c'est pas le terme exact, mais d'homicide routier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
C'est très bien en ce que c'est un beau symbole et que les victimes demandaient à ce qu'on appelle ça un homicide routier, non plus un homicide involontaire. Ouais. Sur le plan du symbole, c'est très bien. Le problème, c'est qu'on s'est arrêté là. Et le vrai problème, c'est de prendre le problème à la racine. Les conduites sous stup, les conduites sous alcool, je vous disais, il n'y a pas un laxisme fou. Cependant, vous disiez, il n'y a pas la peur du gendarme. Moi, je vous dirais, il n'y a pas la peur du juge. Pourquoi? Parce que dans 95% des primo-délinquants, donc ceux qui conduisent sous stup, sous alcool, pour la première fois, ils ne vont même pas au tribunal, on leur envoie ce qu'on appelle une ordonnance pénale, c'est-à-dire une décision prise à l'avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est condamné en correctionnel sans même aller devant le juge, on se déplace même plus, on n'a pas peur de l'audience. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il faut gérer les flux de dossiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est arrivé à un point où on préfère gérer les stocks que de prévenir les morts sur la route. Et la responsabilité de l'État, elle est lourde. Alors moi, je veux bien qu'on change les mots. Je veux bien qu'on mette des budgets sur la justice, mais à un moment, quand vous allez dire « oui, on va s'occuper des stupeux et des alcoolos » et que vous ne les convoquez jamais au tribunal, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots.
Maître, une dernière question. Est-ce que l'État met suffisamment de moyens?
Non.
Je vous parle notamment, on l'évoquait, des effectifs sur le bord des routes.
Non, alors vous avez toujours les syndicats de police qui vont vous dire qu'ils n'ont jamais fait autant de contrôles. Non, je crois que tout n'est pas une question de budget. Le problème, c'est qu'on est gouverné par des gens qui ne pensent qu'économie, qui ne pensent budget. Et quand vous êtes gouverné par des énarques, c'est normal qu'ils pensent comme ça. Moi, je pense quotidien. Et nous, on fait une proposition dans le bouquin qui consiste à dire, attendez, si les gens n'ont pas peur de rouler sans permis, sans assurance, etc., peut-être qu'ils auront peur d'être ruinés à vie. Alors, qui sera ruiné à vie? Eh bien, si on propose à ceux qui ont des accidents à cause de l'alcool ou de stup, si on leur dit, on va venir vous chercher, vous, dans votre porte-monnaie, les dommages et intérêts que vous allez devoir à la victime et que l'assurance aura au préalable avancé, vous allez être ruiné à vie. Les gens n'ont pas peur de la tôle, ils n'ont pas peur du juge, ils n'ont pas peur des bleus, ils n'ont pas peur de perdre leur permis. Mais si on leur dit qu'ils seront endettés à vie et leurs enfants avec, peut-être que là, ils vont comprendre. Donc ça, cette proposition, ça fait des mois qu'on l'a dit sur les antennes. Personne ne nous entend. Voilà.
On l'a redit.
Non, l'État n'en fait pas assez, mais parce que l'État n'a pas envie d'écouter les autres propositions que les siennes.
En tout cas, c'est redit une nouvelle fois. Merci Maître Antoine Réglé d'avoir été avec nous, avocat, auteur de « Drame de la route, combat contre l'injustice », c'est paru aux éditions Hugo Doc. René nous rejoint au 32-16. Bonjour René.
Oui, bonjour.
Bonjour. René, vous nous appelez d'où ?
Je vous appelle de l'Isère, de l'île d'Abo, une commune entre Lyon et Grenoble.
D'accord. Vous faites quoi dans la vie, René ?
Je suis chef de cuisine, actuellement en poste. J'ai des clients qui sont à table, mais ils vont attendre. Ils vont attendre, c'est pas grave.
Bah c'est, bon, en tout cas, on s'attend déjà bon appétit. Mais si vous nous appelez, René, c'est parce que tout récemment, vous avez vécu un drame, quoi.
Ouais, j'ai vécu, et bon, ma fille de 12 ans l'a vécu aussi, qui s'est fait renverser par un automobiliste sur le passage piéton, par un automobiliste qui était en interdiction de conduire. Suite à un problème physique et plus ou moins un petit peu psychiatrique aussi.
D'accord.
Donc elle était interdite de conduire, cette personne. Elle a fauché, ma fille a failli faucher sa petite copine aussi en même temps. Délit de fuite, donc non-assistance à personne en danger et tout. Voilà.
Elle a eu quoi, votre fille
fille a eu une fracture ouverte du fémur. Oh. Je peux vous dire que je suis allé la voir sur les lieux de l'accident et hurler sur le trottoir, c'est très très traumatisant aussi pour... pour elle et puis pour les personnes qui vivent ça
évidemment
en direct. Voilà. Donc suite à ça, moi, mon témoignage, il était plutôt sur l'après. C'est-à-dire que cette personne, suite à divers témoignages, à divers visionnages de caméras de vidéosurveillance, cela s'est produit dans la nuit dans la journée de samedi dernier, le 30 mars.
Ouais.
Donc dans la nuit du 30 au 1er avril, cette personne a été interpellée suite à divers témoignages. A été placé en garde à vue.
On vous entend plus, René.
Il s'en est suivi la procédure normale, que cette personne a été placée en garde à vue, que suite à l'issue de cette garde à vue, cette personne a été relâchée, et on nous dit, en attendant des examens psychiatriques. Donc cette personne actuellement est tranquillement chez lui, peut-être qu'il va faire son footing, alors que ma fillette passe la moitié de sa journée allongée sur un lit. Donc voilà.
Ouais, on l'entend. Donc, c'est vrai que cette image de René, c'est vrai que c'est très, 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 très difficile. Et encore, quand c'est sa fille, mais c'est très difficilement acceptable, même pour nous, d'entendre ce type de témoignage. Comment elle va, votre fille, aujourd'hui, René ?
Elle se remet. Comme je disais à vos collaborateurs, elle se remet doucement de ce qui lui est arrivé. Et il va y avoir une convalescence derrière, une rééducation. Mais le choc psychologique, je pense qu'il va rester quand même.
Bah on vous souhaite et on lui souhaite beaucoup, beaucoup de courage, sincèrement, René.
Merci beaucoup et bravo à vos équipes, vous êtes formidables.
Merci à vous, parce que c'est René. Grâce à vous qu'on fait ces émissions. Merci à vous de nous avoir appelé au 32-16.
Derrière les chiffres, il y a des drames, en fait. Derrière les chiffres, il y a des 3000 morts, il y a des drames, des vies.
C'est vrai que tu as raison de le préciser, Cyril, parce que c'est vrai que les chiffres, on les balance comme ça, mais 3000 morts. Et sans compter les blessés.
Donc vous vous rendez compte le nombre de gens impactés?
On vous a posé la question des faux de permis d'assurance, conduite sous stupéfiant, y a-t-il trop de laxisme sur la route ?
Vous répondez oui à 86%, non à 14%. Je finis avec un message de Cyril. Conduire sans permis, sans assurance ou sans alcool est devenu banal. Il faut absolument réagir.
Allez, dans un instant, la suite d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. 62% des jeunes favorables au retour du service militaire. Bon, encore faut-il savoir et déterminer s'ils savent bien de ce dont ils parlent, mais on va en parler ensemble. Le retour du service militaire obligatoire, les jeunes sont pour, et vous, vous nous appelez au 32-16, c'est dans un instant dans Estelle Midi, à tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Garde à vous.
L'engagement du jour, d'après une étude du CEBIPOF, c'est le centre d'études de Sciences Po, étude également en partenariat avec l'école militaire, une majorité de jeunes se disent aujourd'hui favorables au retour du service militaire. Alfred, service militaire obligatoire, que tu n'as pas fait. Non. Alfred, 6 sur 10 de ces jeunes seraient prêts à répondre à l'appel.
Oui, 62% Rémi, effectivement, se disent prêts à le faire dans le détail hein, chez ces 18-25 ans. 57% se disent prêts à s'engager dans l'armée en cas de guerre. Et même sans forcément rejoindre l'armée, les jeunes sont prêts à se battre. 63% prendront les armes en tant que civils si le pays est attaqué. D'après ce sondage du CEVIPOF et de l'Institut de recherche de l'école militaire publié ce matin, si les jeunes sont aussi décidés, c'est qu'ils sont très inquiets de ce contexte international tendu où le risque d'escalade est permanent, avec notamment la guerre en Ukraine qui pourrait déborder sur un risque de guerre mondiale. 58% d'entre eux redoutent d'ailleurs un conflit mondial et ils sont même prêts d'un sur deux à penser que la guerre peut arriver sur le sol français dans les prochains mois.
Alfred Orange, rompez. 62% des jeunes favorables au retour du service militaire, pour ou contre, vous nous appelez au 3216. Thierry.
Je trouve ces chiffres très encourageants à plusieurs titres. D'abord, le fait que si notre pays est attaqué, que les jeunes veuillent le défendre, je trouve que c'est un sentiment noble et fort. Qu'on doit décorréler d'ailleurs du fait d'avoir peur de la guerre, parce que le fait d'avoir peur de la guerre ne fait pas forcément qu'on veuille le défendre. Mmh. Et le fait qu'il y ait des chiffres qui montrent que les jeunes veuillent défendre leur pays, je trouve ça très fort. Sur le service militaire, ouais, je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que, d'abord, je pense que le service militaire, moi je l'ai fait, j'ai été blessé pendant mes classes, donc j'ai passé une partie à l'hôpital, mais peu importe. Bon, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Je ne crois pas au brassage social du service militaire, je pense que ça c'est une illusion. En revanche, la détection par exemple, à l'époque, moi j'en ai vu quand j'ai fait mes classes, de gens qui étaient illettrés, donc on repérait à ce moment-là des carences d'éducation, enfin d'apprentissage qui étaient fortes, et on y remédiait. Même chose sur le fait d'apprendre un certain nombre de valeurs, de respect, d'autorité, de discipline, je trouve que ça c'est bien. Et puis on parlait tout à l'heure du bleu sur les routes. Mais si ces gens, au bout de 6 mois de formation, ils peuvent devenir un appoint à la gendarmerie nationale dans des missions, alors évidemment pas des missions de GIGN pour interpeller
quelqu'un, mais du contrôle de route par exemple.
Mais de contrôle de route, de contrôle d'identité, de choses comme ça, pourquoi pas ? Là, pour le coup, ça serait des trous. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas une thune et que le service militaire, c'est un coût monstrueux. Ouais. Ça coûte très cher.
Enfin, c'est le budget de l'armée. On vient d'augmenter le budget de l'armée.
Oui,
parce qu'on en
mais là
a
aussi,
besoin,
c'est un choix. Vous parliez de choix courageux. C'est un choix politique, en fait. C'est un choix politique.
Thierry, pourquoi tu dis que c'est une illusion, l'idée du brassage du
parce
brassage
que le brassage, il se
social.
Fait pas tellement. Une fois que les classes sont terminées, il y en a qui vont aller dans des bureaux, d'autres qui vont aller dans certaines armes. Le brassage n'est pas si énorme
mais
que
regarde,
ça.
Regarde, tu as des jeunes, tu l'as vécu aussi pendant la service militaire, qui ont appris plein de choses. Moi, par exemple, bon, j'avais pas besoin de ça, mais le fait est que j'ai passé mon permis de conduire à l'armée. T'as des jeunes qui rentrent dans certaines armes, le train par exemple, mais pas que le train, mais ou qui vont apprendre de la mécanique et qui vont passer leur permis poids lourd.
Quand je dis que le brassage est une illusion, c'est que moi par exemple je sortais d'une école de journalisme, je me suis retrouvé à faire mes classes à Fontainebleau avec d'autres gens qui avaient fait des écoles de journalisme.
Tu t'es blessé comment? Avec un stylo ou...
Pardon?
Tu t'es blessé comment?
Non, avec un coup de crosse au cours d'une masse de nuit, c'est quelqu'un devant qui m'a balancé une crosse dans le
ventre
et j'ai eu une fracture du plancher. Peu importe, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que le brassage, il n'est pas total, en fait, avec le service militaire.
Yael Mellul, 62% des jeunes Français favorables au retour du service militaire obligatoire. Vous nous appelez au 3216, d'accord, pas d'accord. Est-ce que toi, tu trouves ça bien?
Moi, je trouve ça très bien. Je trouve déjà bien ce qui se passe avec le SNU. On est sur une base de volontariat et ça touche les 16-17 ans. Mais si on peut insuffler du patriotisme, de l'autorité, des règles, de la morale,
et le sentiment
de la discipline et le sentiment d'appartenir à une communauté, à un groupe, je trouverais ça vraiment formidable. Moi, ce qui m'interpelle aussi dans ce sondage, il y a deux choses qui m'interpellent. C'est que j'ai vu qu'il y avait eu un sondage IFOP en octobre 2023 et que dans ce sondage, il y a 27% des 18-24 ans qui regrettaient le service militaire. Donc entre octobre 2023 et aujourd'hui, il y a quand même une évolution qui est assez stupéfiante, on va dire. Et je pense que ça participe aussi beaucoup du narratif de l'exécutif qui brandit la menace d'une troisième guerre mondiale qui, de mon point de vue, viendrait pas de l'Ukraine, mais plus de l'Iran en ce moment. Et un autre point qui m'a interpellée dans ce sondage, et là par contre qui me fait un peu peur, c'est 60% des jeunes se rallient à l'idée qu'il pourrait y avoir une guerre civile. Ça par contre, alors autant je trouve que ça reflète un peu la réalité de ce qu'on voit dans l'actualité aujourd'hui tout de même, hein, qui est assez alarmante. Autant le, avec ce chiffre de 60%, qui est quand même assez énorme, c'est une majorité qui est écrasante. Je veux dire qu'ils ont, ça me donne l'impression que les jeunes craignent cette réalité qui devient de plus en plus,
présente.
Merci. Je trouve que c'est vraiment assez effrayant en fait. Voilà.
Juliette Briens.
Moi, le retour du service militaire, j'ai toujours considéré que c'était une fausse bonne idée. C'est la première fois que je le vois abordé sur le prisme de vraiment de la peur de la guerre qui revient, etc.
Donc, bah c'est parce que c'est le discours officiel aussi. Oui, il y a encore de ça, allez, 5 ans, 10 ans, en tout cas. Oui, moins 5 ans. Quand on faisait le débat ici, la plupart, en tout cas, un certain nombre de personnes qui, ou voire de spécialistes qu'on a interrogés, nous disaient, non, mais c'est totalement improbable. Parce que l'armée, même des militaires qui nous appelaient, aujourd'hui, n'est plus configurée pour, on a des conflits, des opérations extérieures et tout. Sauf que, toute la donne a changé avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie.
Alors, nous, ce dont on a besoin, ce dont l'armée a besoin pour l'instant, surtout, c'est des moyens, évidemment, mais pour des munitions et du matériel et du personnel formé. C'est vraiment de ça dont l'armée a besoin. Mais on a vu, c'est vrai, avec la guerre en Ukraine, l'invasion en Ukraine, que finalement, on a réquisitionné tout le monde. Et que les hommes ont dû rester sur le sol ukrainien et ils ont dû se battre.
Et à l'école de guerre, aujourd'hui, je parle en France, on est repassé à des scénarios de conflits de masse.
Oui,
bien sûr.
Conflits de masse, ça veut dire avec du monde.
Mais il faudrait poser surtout la question à l'armée sur ses réels besoins. Et je ne pense pas que l'armée répondra qu'un service militaire, c'est ce dont l'armée a besoin. Moi, je pense surtout que sur le service militaire, ce que veulent les gens, c'est que l'armée éduque leurs enfants à leur place. Et ça, pour moi, je suis désolée, c'est la fausse bonne idée. Elle est là. Ce n'est pas le rôle de l'armée d'insuffler un quelconque patriotisme, une quelconque autorité aux jeunes. Ça devrait être naturel pour le patriotisme. C'est le rôle des parents pour l'autorité. Et ce n'est pas à l'armée d'éduquer nos gamins et de faire baisser la délinquance et de faire monter le patriotisme.
62% des jeunes favorables au retour du service militaire obligatoire. Pour ou contre, vous nous appelez au 3216. Sophie nous rejoint. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bonjour Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous nous appelez d'où, Sophie ?
De Paris.
D'accord. Une voix jeune. Je me trompe, vous avez quel âge ?
27 ans.
27 ans. Et vous faites quoi dans la vie ?
Je suis responsable formation dans une banque.
D'accord. Est-ce que vous seriez favorable au retour du service militaire obligatoire ?
Bien sûr, oui. Moi, j'ai postulé là cette année pour être réserviste dans l'armée de terre. Donc, je suis encore dans les process. Donc, on va voir si ça peut se faire. Mais ça me paraissait évident au vu du contexte et aussi du sentiment d'insécurité, etc., de s'engager pour le pays parce que on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, moi, de m'engager.
Vous êtes passée par l'armée déjà, Sophie ?
Oui, j'ai déjà eu les entretiens. Je sors ce matin même de l'entretien de la visite médicale qui a été OK. Donc, j'attends les prochaines étapes, ouais.
C'est quoi vos motivations ?
Défendre le pays. Bon, déjà, défendre mon pays parce que je suis fière d'être française et que ce pays m'a, comme tout le monde, hein, beaucoup apporté. Et puis surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, au vu du contexte actuel, je pense qu'il faut être prêt à intervenir s'il faut, en espérant qu'on n'arrive jamais. Mais faut se préparer, quoi.
Et est-ce qu'un service militaire obligatoire universel pour les garçons et éventuellement pour les filles, ça vous paraît souhaitable et plausible ?
Plausible, au vu de, on est déjà pas mal endetté, donc ça risque d'être compliqué, mais souhaitable, oui, parce que comme dit, faut se préparer pour soi, mais aussi pour les autres. Et puis, au-delà, je vous ai entendu un peu tout à l'heure, j'ai raté certains épisodes, mais de parler de valeurs, de transmission, etc., je pense que c'est aussi le lieu pour apprendre aussi à avoir certaines valeurs, de la rigueur. Ça, évidemment, moi, j'ai tout de suite vu là, lors de mes premiers entretiens, elles ne sont pas là pour rigoler. Donc, c'est des choses aussi, des valeurs qui peuvent être transmises à travers ce service militaire là aussi. Donc, ça a double impact.
Merci Sophie d'avoir été avec nous. Sophie qui nous appelait depuis Paris, 27 ans, qui s'engage pour être réserviste.
D'autant que l'armée de terre n'a pas rempli ses objectifs en matière de recrutement.
Il manque du monde, voilà.
Ouais. Donc moi je trouve ça formidable ce qu'est en train de faire Sophie. Je fais moi-même partie de la réserve de la gendarmerie, donc moi j'invite tout le monde à faire partie des réserves citoyennes. Quand on est animé d'une volonté de servir son pays.
Philippe est avec nous au 32-16. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Rémi.
Enchanté de vous accueillir dans Estelle Midi. Bonjour. Vous nous appelez depuis Nantes, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui.
Je vous demande aussi votre âge, si vous le permettez, Philippe.
62 ans.
D'accord. Le retour du service militaire obligatoire?
Bah, ça dépend duquel, en fait. Puisque moi, j'ai, alors, j'ai un petit élément de contexte. J'ai vécu deux périodes. J'ai été militaire de carrière pendant 10 ans dans le cadre de la conscription à l'époque.
Ouais.
De 82 à 90.
Donc, vous avez été appelé du contingent, comme on disait à l'époque.
Alors, j'étais officier dans l'armée de terre, donc, officier en situation d'active.
Ouais.
Donc, en fait, je commandais des unités et j'ai toujours vécu la conscription à cette époque-là. Et donc, je suis parti notamment au Sud-Liban avec des appelés qui avaient souscrit un volontariat de service long pour servir en opération extérieure.
Alors, vous, si vous étiez, vous n'excluez pas l'idée, ou en tout cas d'être favorable à l'idée du retour du service militaire obligatoire, mais lequel ?
Bah, celui qui permettrait de former des soldats, des futurs soldats, à être projetés et à être engagés dans les futurs conflits, s'il y en a, ou dans les conflits actuels.
Mais ce qui est à l'origine le sens du service militaire, à l'origine.
C'est à l'origine le sens de la conscription, bien évidemment. Et d'ailleurs, jusqu'à la guerre d'Algérie, il y avait la nécessité pour le Parlement de voter le fait d'envoyer des appelés dans les conflits.
Vous qui avez été 10 ans dans l'armée, officier supérieur, officier, Philippe, est-ce que ce serait possible, selon vous, que l'armée fasse cette mue? Parce que là, il faudrait tout changer. Hein.
Bah, en fait, ce serait si la vocation, c'est de former des soldats destinés à combattre, la mue, elle serait assez, quelque part, alors je ne dis pas facile, mais assez possible.
Mais il faut des moyens financiers, après.
Alors, il faut des moyens financiers, mais aujourd'hui, par exemple, dans chaque régiment, vous avez à minima une compagnie de réservistes ou des gens qui sont civils et réservistes sont formés et sont projetés. Alors, dans le cas de l'opération Sentinelle, moi, j'ai été projeté dans ma deuxième partie de carrière en réserve opérationnelle en Afghanistan et j'ai servi avec des personnes qui étaient des réservistes opérationnels. Donc, cette mue-là, elle est facile. Elle est facile. Elle est plus facile sous réserve de moyens alloués, bien évidemment.
C'est ça.
Si on forme des soldats, parce que c'est la vocation de l'armée de former des soldats aptes à combattre et prêts à combattre. Par contre, si la vocation du service militaire, c'est de compasser une espèce de manque de cohésion sociale et de brassage social aujourd'hui, c'est pas du tout la vocation de l'armée, quoi. À l'époque, ça l'était, mais la conscription était dans la loi. Et donc, moi, j'ai vécu, contrairement à Thierry Moreau, qui exprimait le fait qu'il doutait du brassage social. Moi, dans toutes les unités que j'ai commandées à l'époque, étaient des unités notamment de troupes de montagne, il y avait un fort brassage social. À un moment, j'ai servi dans un régiment dans le sud-est de la France. J'avais du quasi-analphabète au bac plus 3, et ces gens-là cohabitaient et collaboraient au sein de l'unité, quoi.
Merci Philippe d'avoir été avec nous au 32-16. Philippe qui nous appelait depuis Nantes. On vous a posé la question, 62% des jeunes favorables au retour du service militaire obligatoire pour ou contre?
Vous répondez pour à 77%, contre à 23%. Deux messages. Le premier de Julien: les jeunes qui veulent rentrer dans l'armée, contrairement à ce qu'on dit, prouvent qu'ils ont l'amour du pays. Et puis Théo qui nous dit: je n'accepterai pas que mes enfants puissent servir l'État. Pas question de participer au service militaire.
Allez, dans un instant, on n'arrête pas le progrès avec Anthony Morel. Anthony qui fait tomber la barrière de la langue. C'est tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Anthony Morel nous a rejoint.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
You come with me to pick up Peter.
You come with me to pick up Macintosh.
No. You. If you don't come, Ah merde alors, comment on dit
comment
ça?
Comment ça merde alors? Tout à l'heure, you are French.
J'adore.
Anthony, bon, un classique de French. Bah oui, un classique de chez classique. La technologie va-t-elle nous permettre d'en finir une bonne fois pour toutes avec la barrière de la langue? On pourrait plus entendre cet extrait.
Ah non, c'est vrai. Il aurait été moins embêté, hein, Louis.
C'est vrai.
Comprendre.
C'est bien parti pour. On voit arriver en ce moment des outils de traduction de plus en plus spectaculaires.
Ouais, absolument. En fait, c'est un fantasme de science-fiction qui est en train d'arriver pour de vrai. C'est l'interprète universel qu'on trouve dans Star Trek. Il y avait ça, même dans la Nuit des Temps de Barjavel aussi. Enfin, c'est vraiment un classique, cette idée qu'on puisse se faire comprendre instantanément de n'importe qui dans le monde et que, à l'inverse, ils vous comprennent quand vous parlez. Et là, il y a un petit appareil. Alors que j'ai découvert sur un salon récemment, un salon tech, assez incroyable. Donc ça ressemble à une batterie d'ordinateur. En gros, tu mets ça au milieu d'une salle où les gens parlent des langues différentes. Imagine, on met ça là au milieu du plateau, en imaginant qu'on parle tous, Thierry parle chinois, toi tu parles espagnol.
C'est vrai, ça lui arrive. Voilà. C'est sûr que ça lui arrive.
Ouais, et j'ai fait 3 ans de chinois.
Ah, c'est vrai. Ah, bah voilà. Bon, alors, c'est peut-être pas un bon exemple. Et moi, je parle japonais. Donc, on met ça au milieu de la pièce, on met les écouteurs dans les oreilles et chacun va comprendre l'autre. C'est-à-dire que moi, je vais entendre Thierry qui parle. Voilà, wow. Pas mal, voilà. Donc là, j'ai compris. Bonjour. C'est bien. Voilà. Bah, c'est, tu as eu la traduction instantanée. Ça fonctionne très, très bien, quand même.
Hello.
Et ça se fait instantanément en 5 langues différentes dans une pièce pour 20 personnes. C'est extraordinaire. C'est tu vois le truc. Donc pour
incroyable.
Pour les entreprises, tu imagines le truc pour les réunions. Intéressant. Et ça, c'est en train d'arriver. C'est-à-dire que, alors, c'est rendu possible par l'intelligence artificielle notamment, et c'est exactement la même chose que si tu avais un interprète humain, en fait, qui te murmurait à l'oreille en permanence.
Là, on parle d'un outil bon pour les pros, mais ouais. Maintenant, de plus en plus de technologies vont se retrouver dans nos smartphones.
C'est ça qui va nous intéresser. Alors, on a déjà Google Traduction qui fonctionne très très bien, hein, qui a été une des premières applications qui utilisait vraiment l'intelligence artificielle concrètement. Et c'est vrai que c'est extraordinaire là aussi l'effet. On peut maintenant même, tu prends un menu, je sais pas, en chinois, écrit en chinois, en photo, il est traduit instantanément. C'est quand même pas mal. Mais on va aller encore plus loin. Là, sur les derniers modèles qui viennent de sortir, les derniers modèles, je vais pas citer les marques, mais bon, avec de l'intelligence artificielle dedans. Tu vas avoir une traduction vocale instantanée. Par exemple, t'imagines, t'es en Espagne, tu veux réserver un restaurant, t'appelles le restaurateur. Le restaurateur, il va t'entendre en espagnol alors que tu lui parles en français, instantanément. Et lui, il te répond en espagnol, tu vas l'entendre en français. Ça se fait comme ça. C'est incroyable. C'est vraiment très spectaculaire. Pour l'avoir testé, ça fonctionne incroyablement bien. Et ce sont des technologies qui vont aussi s'installer dans les écouteurs. Et on commence à voir arriver ça. Donc, c'est des écouteurs pour smartphone. Tu vois, tu mets ça dans les oreilles. Tu discutes avec quelqu'un dans la rue. Tu choisis via une application la langue de ton choix et tu vas avoir la traduction instantanée. C'est quand même incroyable. Alors, il y a notamment une entreprise, j'ai pas cité le nom, hein, qui s'appelle Time Kettle, qui est très, très en pointe sur ces sujets.
Et est-ce que ça respecte quand même les subtilités de la langue ?
Oui, alors c'est pas encore parfait, hein. C'est pareil avec l'intelligence artificielle, ça s'améliore au fil de l'utilisation. C'est pour ça aussi qu'il faut des outils, on va dire, spécialisés pour des secteurs particuliers. Par exemple, pour la santé, tu vas avoir des outils de traduction particuliers. Pour les transports, là, pour les Jeux Olympiques, tu as les agents de la RATP, 2000 agents qui vont être équipés d'un outil qui s'appelle Tradivia, qui va leur permettre d'échanger avec les touristes sur les subtilités du pass Navigo et des stations de métro parisiennes, parce qu'avec Google Trad, ça fonctionne pas, c'est trop compliqué. Le pass Navigo, si vous voulez, Google, il sait très fort, mais il a des limites, et le pass Navigo, ça en fait partie.
Mais j'ai envie de te dire thank you.
C'est toi. Merci beaucoup, c'est ça. Très bien.
Merci Anthony. Dans un instant, libérer les détenus en fin de peine pour faire de la place en prison. C'est ce que proposent les représentants des avocats d'Île-de-France. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Vous nous appelez au 3216. C'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.